Vous écoutez France Culture.
Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Le guide suprême iranien riposte à Donald Trump et à son nouveau train de sanctions à venir lundi. L'ayatollah Ali Khamenei déclare l'Amérique a été vaincue par la République islamique au cours des 40 dernières années. Analyse dans un instant de Nabila Hamel. Selon Eurostat, les femmes européennes gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes. C'est l'une des données affligeantes livrées en cette journée européenne de l'égalité salariale. Précision de Pierre Benazem. La parole des victimes de pédophilie reçue pour la première fois par l'Église catholique lors de la conférence annuelle de ses évêques. Commentaire de la directrice de la lettre hebdomadaire Témoignage chrétien. Enfin, la bulle économique de ce samedi pose la question complexe de la hausse ou pas du pouvoir d'achat. Faire plier l'Iran, moyennant une campagne de pression maximale. Ce sont là quelques éléments de langage brandis par de hauts responsables de l'administration Trump, Donald Trump, qui, midterms ou pas, ne fait jamais l'économie des formules choc. Il s'agit là de l'entrée en vigueur à compter de lundi prochain d'un nouveau train de sanctions à l'encontre de la République islamique et de ses partenaires économiques, les plus lourds de sanctions depuis que les États-Unis de Trump ont décidé de se retirer de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour.
Nabila, le président américain a, comme à l'accoutumée, soufflé le chaud, le froid et le tiède.
Oui, et tout cela avec des effets spéciaux à la Trump. Le président américain s'est dès hier mis en scène sur le mode Game of Thrones. Sur sa messagerie préférée, il s'est montré en photomontage sur fond de ciel brumeux et l'incrustation. Les sanctions viennent avec des hauts barrés de trois traits comme sur l'affiche de la série à succès. Puis il muscle le ton dans un communiqué. Soit l'Iran abandonne son comportement destructeur, soit il continue sur le chemin du désastre économique. Puis il dit vouloir imposer ses sanctions au régime, mais pas à la population. Alors difficile d'imaginer qu'elles n'ont pas d'impact sur les Iraniens. Ces sanctions sont destinées, vous le disiez, à barrer l'accès au marché américain à tout pays ou entreprise qui continuerait d'acheter du pétrole iranien ou d'échanger avec les banques iraniennes. Et Washington avertit, il y aura davantage de contrôle. En clair, gare aux pays qui n'en tiendraient pas compte. Alors, vous le disiez, Washington joue aussi le tiède, car il y a des dérogations temporaires pour 7 pays. On ne les connaîtra que lundi. La Turquie, qui a connu récemment un réchauffement de ses relations avec Washington, fait savoir qu'elle est sur la liste des exemptions, liste qui pourrait aussi contenir la Corée du Sud, l'Inde, le Japon et peut-être la Chine, mais rien de sûr à ce stade. L'Union européenne, en tout cas, n'en fera pas partie, d'où le communiqué conjoint hier de la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni et de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui regrette vivement la réimposition de sanctions contre l'Iran et les signataires de ce communiqué réaffirment leur objectif de protéger les acteurs économiques de leur pays engagés dans des échanges commerciaux légitimes avec l'Iran.
Merci à vous Nabila Hamel. Donald Trump, qui tient l'Iran à distance, s'est réjoui de l'élection dimanche dernier de Jair Bolsonaro. Le président brésilien sera d'ailleurs très vite à Washington, premier intercalaire d'un rapprochement commercial et militaire entre les deux puissances. Jair Bolsonaro, tout à la constitution de son gouvernement depuis son élection dimanche dernier, a veillé dans un premier temps à répondre aux attentes des milieux financiers à ses côtés pendant la campagne électorale. Tout laisse à penser que Bolsonaro ira plus loin que son prédécesseur, Michel Temer, dans un programme ultralibéral qui plaît au marché, mais que le Brésil n'a encore jamais expérimenté. C'est une correspondance de Rio de Janeiro, Dan Vigna.
Jair Bolsonaro a toujours affirmé qu'il n'y connaissait rien en économie, mais qu'il allait s'entourer de conseillers expérimentés. En réalité, son futur ministre de l'économie, Paulo Guedes, n'a aucune expérience en administration. Il a toujours travaillé dans le privé et est actuellement enquêté par la justice, soupçonné d'avoir participé à une fraude millionnaire dans la gestion d'un fonds de pension. Mais rien de cela n'effraie le marché, ravi du projet ultra-libéral de Guedes. Le ministre veut tout d'abord privatiser au maximum, y compris l'entreprise pétrolière Petrobras, s'il parvient à convaincre le président élu, plutôt réfractaire à cette idée. Bolsonaro, comme la majorité des militaires, avait plutôt une vision nationaliste avant de rencontrer Guedes. Ce dernier l'a déjà convaincu de réduire de moitié le nombre de ministères. De 29, il projette d'en avoir seulement 15. Son slogan est parlant « Plus de Brésil, moins de Brasilia ». La capitale est vue par les libéraux comme une administration lourde, chère et inefficace. Guedes souhaite l'approbation en décembre d'une réforme des retraites sur le modèle modèle chilien. Un système encore public, mais avec une grande participation des fonds de pension privés. Grâce aux privatisations et aux économies dans les dépenses publiques, Guedes promet de réduire au plus vite la dette. Sinon, il compte laisser au privé les manettes de l'économie et assure que l'inégalité va baisser, les salaires augmenter et les investissements étrangers se multiplier.
Trois chefs de village exécutés en moins d'une semaine dans le nord de l'Irak par des djihadistes. Ces chefs de village sont régulièrement pris pour cible dans cette région montagneuse de la province de Kirkouk, région reprise aux cellules djihadistes à la fin l'année dernière. Elles restent toutefois agissantes, ces cellules, et ciblent tant les responsables locaux que les infrastructures pétrolières. À compter d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre, les Européennes travaillent pour rien quand leurs collègues masculins à travail égal engrangent leur salaire. Les inégalités salariales sont toujours une réalité en Europe, plus de 40 ans après les premières législations visant à instaurer l'égalité de traitement. La France fait un peu mieux que la moyenne européenne avec une différence de 15,2% selon les chiffres validés par l'Office européen des statistiques Eurostat. Piètre résultat pour nous autres quand la moyenne de l'écart à l'échelle européenne est évaluée à 16,2%. On entre dans le détail, avec vous, Pierre Benazet.
La lanterne rouge revient à l'Estonie avec plus de 25% d'écart de salaire entre femmes et hommes. Dans le reste de l'Union, les plus grosses différences de salaire concernent les Autrichiennes, les Allemandes, les Britanniques et les Tchèques avec plus de 20% d'écart. À l'autre extrémité de l'échelle, sous les 10%, l'écart est moins défavorable aux Polonaises, Croates et Slovènes, mais celles qui s'en sortent le mieux sont les Belges et les Luxembourgeoises, et surtout les Italiennes, avec 5,5%, et les Roumaines, 5,2% d'écart avec les salaires masculins. La Charte européenne des droits fondamentaux a beau graver dans le marbre l'interdiction de la discrimination salariale entre les sexes, il reste que les femmes sont toujours sous-représentées dans les emplois les mieux rémunérés, c'est le plafond de verre, et sur-représentées dans les bas salaires, c'est le plancher collant. La forte hausse de leur niveau de diplôme et de leur taux d'emploi n'ont pas permis aux Européennes de rattraper les salaires des hommes, en particulier parce qu'elles sont plus souvent en temps partiel ou en interruption de carrière. Et ces différences sont par ailleurs extrêmement résistantes, puisque non seulement elles ont mis des décennies à se réduire, mais en outre, elles ne semblent pas en voie de se résorber, car entre 2012 et 2016, les statistiques européennes montrent que la réduction de l'écart moyen n'a été que de 0,6 points de pourcentage. Les écarts de salaire ont en fait augmenté dans 10 pays de l'Union européenne.
Il est encore 12h37 et vous écoutez le journal de France Culture. L'Église catholique réunit ses évêques à compter d'aujourd'hui et pour 6 jours à Lourdes. Une conférence annuelle qui fera date en cela qu'elle a pour objectif de rompre avec déni et évitement s'agissant des actes de pédophilie et abus sexuels attribués à des hommes d'Église. Dans la semaine, fait extrêmement rare, des peines de prison fermes ont été requises à l'encontre de 2 prélats. Cette conférence est importante car elle accueille pour la première fois des victimes. Et cette initiative, ce geste est conforme aux dernières déclarations du pape. Mais tout reste à faire, selon Christine Pedotti, directrice de Lettres hebdomadaires Témoignages chrétiens.
En l'occurrence, qu'ils écoutent les victimes, j'ai envie de dire que c'est bien la moindre des choses, qu'il était temps, puisque dans une certaine mesure, ces victimes sont les victimes d'un silence dont ils sont responsables collectivement, chacun pour leur part, eux ou leurs prédécesseurs. Maintenant, reste à savoir s'ils sauront prendre la mesure de ce qui est en jeu. Et c'est un enjeu qui met en cause la structure même de l'Église. Il faut écouter ce que dit le pape, parce qu'il le dit avec une lucidité extraordinaire. Il parle d'une culture de l'abus et il met le doigt sur 3 abus. Il dit abus de pouvoir, abus sexuel, abus de conscience. Et donc c'est là-dessus que les évêques ont à s'interroger. Qu'est-ce qui fait que dans l'Église aujourd'hui, on est dans cette situation ? Comment est-ce que des gens qui normalement sont au service, qui sont des hommes qui ont une vocation spirituelle, passent dans la culture de l'abus, c'est-à-dire imposent aux consciences leur façon de voir? Cette culture de l'abus, elle est réelle, elle est présente. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une grande, grande conversion qu'il va leur falloir faire. Il faut bien commencer. Alors ben, on commence aujourd'hui, j'espère que ça va continuer. Il faut qu'ils prennent conscience que ça n'est pas une petite anecdote même dramatique qui leur arrive, que c'est quelque chose de plus profond.
Vous pensez que c'est plus finalement une opération de communication, ce qui se déroule à Lourdes aujourd'hui ?
Je crois que ce qu'il arrive les met dans un immense désarroi et que ça va leur demander une grande conversion morale, intellectuelle, culturelle, spirituelle, et qu'on n'en est qu'au début.
Des propos recueillis par Julie Paco. 70 millions, j'ai bien dit millions de documents examinés par 15 médias européens, dont Mediapart. C'est la plus importante fuite de l'histoire du journalisme qui débouche sur la mise au jour de pratiques frauduleuses attribuées à deux grands clubs de football européens, Manchester City et le PSG, accusé d'avoir gonflé, grâce à des contrats fictifs, leurs revenus sous couvert de l'UEFA. Silence radio du côté de l'UEFA, un haut responsable du Paris Saint-Germain a lui démenti tout accord secret. Inès Lombartex a sollicité notre confrère du journal L'Équipe, Vincent Duluc.
En fait, dans ces révélations, il y a trois aspects importants. Le premier aspect, c'est la manière dont le PSG et Manchester City, qui sont les deux nouveaux riches du football européen, ont été aidés par l'UEFA elle-même, c'est-à-dire l'institution, à contourner les règles du fair play financier qui interdisent de dépenser plus d'argent qu'on peut en générer. Le deuxième aspect très important, c'est qu'il y aurait donc une fuite concernant la sanction qui pourrait être prise contre le Paris Saint-Germain à la suite de la révision d'un contrat de sponsoring avec l'Office de tourisme du Qatar. Et le Paris Saint-Germain risquerait une exclusion de la Ligue des Champions. Et la troisième révélation majeure, mais qui est peut-être paradoxalement la plus importante et celle dont on parle le moins, c'est que les grands clubs européens se sont quasiment mis d'accord, ou presque, pour la création, à terme, à court terme ou à moyen terme, d'une Super Ligue européenne fermée qui pourrait complètement bouleverser l'organisation du football européen tel qu'on la connaît aujourd'hui. Ces révélations disent ce qu'on sait depuis longtemps, à savoir que les deux institutions majeures, économiquement, du football mondial, à savoir l'UEFA pour la Confédération européenne et la FIFA, qui est son organisme mondial, sont gangrénées par les arrangements entre amis, voire même parfois entre ennemis. Tout ce bon monde qui se déchire parfois a beaucoup d'intérêts convergents.
Vincent Duluc, du journal L'Équipe.
La bulle économique, Marie Vienneau.
Aujourd'hui, Marie, vous nous entretenez de la polémique sur le pouvoir d'achat. Augmente ou augmente pas ?
Le pouvoir d'achat des ménages augmente lorsque le revenu disponible, leur salaire, plus les prestations, moins les cotisations, les impôts qu'ils payent, augmente plus vite que les prix.
Ronan Mailleux est chef du département des comptes nationaux de l'INSEE. Plongeons-nous dans les chiffres qui sont publiés sous sa direction pour comprendre comment un gouvernement peut agir sur le pouvoir d'achat. Il y a deux leviers que chacun devine intuitivement, les revenus et les prix. Pour augmenter les revenus, un gouvernement peut jouer sur les salaires, ceux du privé en augmentant le SMIC, ceux du public en augmentant les fonctionnaires. Il peut augmenter les prestations sociales ou enfin, et c'est la voie choisie par le gouvernement actuel, il peut réduire les impôts et les cotisations sociales. Après avoir beaucoup augmenté sous le quinquennat Hollande, les impôts sur le revenu et le patrimoine repartent à la baisse depuis le deuxième trimestre 2018. Même chose pour les cotisations sociales qui étaient sur une piste très ascendante depuis 6 ans. Le gouvernement dit donc vrai quand il dit réduire les impôts et les charges. L'effet macroéconomique sur les revenus des Français est déjà visible et le sera encore plus en fin d'année. Le problème, c'est que cet effet n'est pas uniforme. Il y a des Français qui gagnent et d'autres qui perdent. D'après les calculs de l'Institut des Finances Publiques, en deux budgets de présidence Macron, les perdants sont les 20% les plus pauvres et les 20% les plus riches. Les gagnants sont entre ces deux extrêmes et les super gagnants, ce sont les 1% les plus riches qui y gagnent vraiment, vraiment plus que tout le monde. L'opposition a donc raison de souligner que le gouvernement favorise le haut du panier et le gouvernement raison quand il dit aussi favoriser les classes moyennes. Les choses se compliquent encore quand on passe à la deuxième variable du pouvoir d'achat, les prix. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, l'indice des prix a été multiplié par 3. Ce n'est pas de chance. Si le cours du pétrole et les tensions commerciales tirent les prix vers le haut, le gouvernement n'y est pas pour grand-chose. En revanche, il est responsable d'avoir amplifié cette hausse en augmentant les taxes sur les produits pétrolier. Au final, donc, une chose est claire, le pouvoir d'achat tel que calculé par l'INSEE augmentera en 2018. Et c'est ce chiffre positif que le gouvernement mettra en avant quand il sera publié fin mars prochain. Cela mettra-t-il fin à la polémique ? Bien sûr que non. Pas parce que les Français sont des indécrottables mécontents, mais parce que le pouvoir d'achat mesuré par l'INSEE ne dit rien de nos dépenses contraintes, celles sur lesquelles on n'a justement pas de pouvoir. Pour tenir compte de cette critique récurrente, depuis 10 ans, l'INSEE publie donc aussi le revenu disponible des ménages, une fois déduites leurs dépenses pré-engagées, logement, électricité, gaz, eau, frais de cantine, de télécommunications, de télévision, assurances et services financiers. Or, que constate-t-on ? La part de ces dépenses contraintes est passée de 13% du revenu disponible dans les années 60 à 30% en 2017. Les marges de manœuvre dont dispose chacun chacune avec son budget se réduisent, c'est bien bien une réalité. Mais il resterait quand même 70% de dépenses libres. Sauf que, vous l'avez peut-être remarqué, les transports ne font pas partie des dépenses contraintes selon l'INSEE. Dommage pour ceux et celles qui ont besoin de leur véhicule pour travailler. Autre lacune, l'INSEE ne décline pas le pouvoir d'achat par revenu. Or, on comprend bien que quand les prix augmentent, l'effet n'est pas le même selon qu'on économise déjà les centimes ou pas. On pourrait donc encore améliorer les statistiques. Cela permettrait à ceux et celles qui galèrent en dessous de la moyenne de ne pas voir leurs difficultés éludées par un chiffre global encore imparfait. Et cela éviterait que tout le monde ait raison quand il dit le contraire de l'autre à propos du pouvoir d'achat qu'il donne ou qu'il ne donne pas.
La météo pour refermer cette édition, un ciel dégagé et du soleil sur une majorité du pays. Merci à Emmanuel Faucillon ainsi qu'à Pierrick Monsigny à la technique.